بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد donc inshallah on va poursuivre les quelques commentaires et traductions des versets du Coran Sharif et on était passé par le 15e sipara dans lequel on avait vu certains éléments et on avait abordé un verset principalement de la sourate Al-Kahf. Alors cette sourate Al-Kahf, c'est une sourate qui comporte et qui renferme beaucoup de vertus, beaucoup de bienfaits. Et avant même de commencer, Inch'Allah, on va essayer de mentionner quelques ahadith mubaraka du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle justement des vertus et des spécificités de cette sourate Al-Kahf. Parce que le Coran Sharif également, il y a bien sûr une partie lecture, tilawat qu'on doit faire, et une autre partie qui concerne certains versets en particulier comme l'ayatul kursi pour lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné des récompenses de le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des récompenses bien précises. Cela est valable également pour certaines sourates comme aujourd'hui inshallah un petit peu on va parler de sourate Al-Kahf et également la sourate Taha. Donc dans un hadith sharif Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala rapporté par l'imam Muslim, l'imam Ahmad, l'imam Abu Daoud, l'imam Nasai rahimahullahu ta'ala, il nous dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui va réciter les 10 premiers, qui va mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, alors il sera protégé contre le fitna de Dajjal. Et dans un autre riwayat, toujours Abu Darda radiallahu anhu, il rapporte cette fois que la personne qui va mémoriser les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf, c'est-à-dire dans le 15e sipara qui commence par Alhamdulillah, illadhi anzala ala abdihi al-kitab, wa lam yaj'al lahu iwaja. Dans un autre hadith sharif, Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu, rapporté par Ibn Sunni et Imam Ahmad dans son Musnad rahimahullah ta'ala, il dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui va lire les premiers et les derniers versets de la sourate Al-Kahf, alors il aura une lumière qui commencera depuis ses pieds jusqu'à sa tête. Or jisnayi surat puri parhi, et celui qui lira toute la sourate, alors cette lumière elle s'étendra de la terre jusqu'au ciel pour cette personne-là. Dans un autre hadith sharif, il est dit en ce sens, Abu Sa'id radiallahu anhu, il rapporte que la personne qui va lire la sourate Al-Kahf du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi, alors jusqu'au prochain Jumu'ah, jusqu'au prochain vendredi, Allah ta'ala lui accordera donc cette lumière. Et principalement, le bienfait par rapport à ça, c'est quoi? C'est la protection contre le fitna, contre l'épreuve de Dajjal qui fait partie d'un des grands signes du Qiyamah. Alors par rapport à cette sourate Al-Kahf, juste inshallah brièvement quelques éléments. Allah tabaraka wa ta'ala parle du récit de certains jeunes qui se sont réfugiés dans une caverne pour se protéger contre les méfaits du roi de l'époque, et cela montre leur force de iman, de leur taqwa. Allah tabaraka wa ta'ala il décrit un peu ça. Ils sont restés pendant un certain nombre d'années, wa labithu fi kahfihim 300 sinin wa izdadu 9, 309 années donc dans cette caverne-là. Et comme vous le savez, le Coran Sharif n'est pas un livre d'histoire. Donc certains ont essayé, et certains jusqu'à aujourd'hui même, si je me trompe, quand vous allez également en Syrie, on vous fait visiter cet endroit-là. Mais il n'y a pas, enfin, Allah, wallahu alam, en tout cas à travers les hadiths et le Coran Sharif, Allah Ta'ala ne mentionne pas, ne précise pas clairement et explicitement l'endroit de cela. Allah Ta'ala mentionne quelques informations. Donc si, alhamdoulilah, on a la possibilité d'aller visiter, on peut aller visiter, tout en gardant à l'esprit que cela est basé sur des récits historiques, donc ce n'est pas la même catégorie que les ahadiths et mubarakah. Donc Allah Ta'ala parle de ces personnes-là. Allah Ta'ala parle également du récit de Hadith Moussa alayhi salatu wassalam et d'un personnage qu'on appelle Al-Khadir. On appelle également Khizar ou bien Khadir, il y a différentes manières de le prononcer, cela. Et lui, c'est un personnage assez, on va dire, mystérieux, dans le sens où parmi les ulama, il y a un débat sur le fait que Hadith Khadir radiallahu anhu, bien alayhi salatu wassalam, ça dépend comment on l'appelle, sur le fait qu'il soit encore vivant ou non. Et la majorité des ulama, selon les dires de Hadith Mufti Shafi Sahib rahimahullahu ta'ala, ils sont plutôt d'avis que Hadith Khadir radiallahu anhu n'est plus vivant. Il prend la parole de Hadhrat Allama Abul Hayyan Al-Andalusi rahimahullah ta'ala dans son tafsir Al-Bahr Muhid. Il dit que Allama Alusi Abu Hayyan rahimahullah ta'ala, il mentionne le récit de différentes pieuses personnes qui nous disent qu'ils ont rencontré Al-Khadir ou bien Khidar radiallahu ta'ala. Et après, malgré tout, à la fin, il dit Wal-Jamhur ala annahu mata. La plupart des savants, ils sont d'avis qu'il a quitté cette terre. Alors pourquoi certains disent qu'il est encore vivant, pourquoi d'autres disent qu'il n'est plus vivant, etc. Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, aux pages 622, 623 et suivantes dans son Ma'arif al-Quran volume 5, il a un peu détaillé cela. Bref, tout cela pour dire quoi? Que c'est un personnage qu'on va dire qui existe dans l'islam et que certaines personnes, certaines hommes pieuses, ils racontent en ce sens qu'ils l'ont rencontré. Wallahu alam, Allah tabarak wa ta'ala, lui-même, il sait mieux la réalité des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que oui, Allah tabarak wa ta'ala, il mentionne également ce qu'on appelle les Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Eux, ils font partie d'un des signes, des grands signes du Qiyamah. Dans un hadith sharif, en ce sens, il est dit que après l'arrivée de Dajjal et après l'arrivée de Isa alayhi salatu wassalam, alors à ce moment-là, ils vont arriver. C'est-à-dire, c'est Gog et Magog. Plusieurs hadiths mubaraka également, on trouve par rapport à eux. On dit en ce sens que ils seront tellement nombreux, pour avoir une estimation, que lorsqu'ils vont passer sur le lac de Tibériade, à un moment, lorsqu'on a fait le tafsir, peut-être l'année dernière dans le mois de Ramadan, on avait montré une carte en ce sens, et donc dans cette région de la Palestine, Jordanie, dans ces endroits-là, le lac de Tibériade, lorsqu'ils passeront là, tellement ils seront nombreux, les gens qui viendront après, il n'y aura plus une seule goutte d'eau, tellement les gens ils auront donc bu de cette eau-là. Et donc ces Gog et Magog, qui sont-ils? Là également, il y a plusieurs commentaires qui ont été donnés. Vous avez certainement déjà entendu ce récit qui dit en ce sens que tous les jours, ils sont derrière un mur en fait, que Hazrat Zulqarnayn, radiyallahu ta'ala, Allah ta'ala parle de lui également dans le Coran Sharif, dans cette suratul Kahf, dans le début du 16e sipara, wa yas'alunaka 'an Zulqarnayn. Alors Zulqarnayn en lui-même, qui était-il d'après, on va dire, les recherches les plus adéquate concernant ce personnage qui était un homme pieux et qui a aidé donc ce peuple à se protéger contre les Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, c'est quelqu'un qu'on appelle Cyrus. On appelle Cyrus et non pas Alexandre le Grand, donc selon les recherches qui ont été faites par les ulamas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les Gog et Magog, donc selon un récit comme on a dit, que vous avez peut-être certainement déjà entendu, ils sont cachés derrière un mur et chaque jour ils essayent de manger, en tout cas de casser, de briser ce mur. Et à chaque fois, lorsqu'arrive le lendemain, ce mur il reprend sa forme initiale. Jusqu'à ce qu'un jour, Allah tabarak wa ta'ala, il décidera de faire qu'ils vont sortir de ce mur. Et dans d'autres versets du Coran Sharif, Allah ta'ala il dit également « Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun » Jusqu'à ce que cela va être ouvert. Alors qu'est-ce qui va être ouvert? C'est-à-dire, on peut prendre le sens de ce mur-là. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ce mur-là également? Parce que dans cette suratul Kahf, il est dit que lorsque Dhul-Qarnayn est arrivé face à un certain peuple, ils lui ont demandé, car c'était un roi qui avait une certaine autorité et puissance, force, qu'Allah Ta'ala lui a donnée, ils ont demandé justement de construire un mur pour se protéger de ces Gog et Magog. Et c'est ce qu'il a fait, le Coran Sharif est clair là-dessus. Maintenant, où est-ce que ce mur se trouve? Là aussi, il y a débat entre les ulamas. Et à travers le monde, vous savez qu'il y a certains grands murs qui sont extrêmement connus, comme le mur de Chine, par exemple, et d'autres également. Bref, selon Mawlana Hifzur Rahman Suharwi, rahimahullah ta'ala, les recherches qu'il a faites, il dit qu'aujourd'hui encore, bien que ce soit, on le verra, inshallah, je lirai ce que Mufti Shafi Sahib, rahmatullah alayhi, a dit, il dit qu'aujourd'hui, le mur que Cyrus II, c'est-à-dire Dhul-Qarnayn, avait construit autrefois pour empêcher les sites Gog et Magog de l'époque d'ailleurs de venir piller les cités situées en deçà du massif. C'est-à-dire, ça se trouve où? Dans la passe de Darial, dans le massif du Caucase. Un mur de fer et de cuivre qui s'appuie sur deux sommets montagneux. Donc ça, c'est les paroles de Qasas al-Qur'an que maintenant Lala Adam al-Barakatuhum Anas Lala qui a repris ça également et qui dit donc Wallahu alam, selon les recherches, on va dire, de Mawlana Hifzur Rahman Suharwi rahimahullah ta'ala, que peut-être que c'est ce mur qui se trouve dans cette région du Caucase, donc là, dans la passe de Darial, entre deux grandes montagnes, il y a encore une certaine muraille. Maintenant, par rapport à tous ces ahadiths et mubarakas, tout ce qu'on peut trouver dans le Coran Sharif et dans les ahadiths, le Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali, à la page 654, il nous dit qu'en résumé, Quran wa sunnat mekoi esi dalil sarih ar qat'i nahi hai, jisse ye sabit ho ke sadde dhul qarnain qiyamat tak baqi rahegi. C'est-à-dire dans le Quran et dans les hadiths, il n'y a pas de preuve sarih, ça veut dire clair, et qat'i de manière totalement authentique. Là, c'est une terminologie un peu particulière, on va dire, dans le Coran et la Sunna. Donc, Sarih et Qat'i qui nous dit que ce mur va rester jusqu'au jour de Qiyamah. Non. Ça, Allah Ta'ala a dit qu'effectivement, dans le Coran, il a construit un mur. وَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا. Donc, il a construit ce mur-là. Mais le Coran ne dispose pas, et les hadiths, de preuves Sarih et Qat'i sur le fait que ce mur restera jusqu'au jour de Qiyamah. Ça, c'est un premier élément. يَا أُنْكِ إِبْدِدَائِ أَرْ مَعْمُولِي حَمْلِي قِيَامَتْ سِبْهْلِي إِسْتَرَفْكِ إِنسَانُونَ پَرْنَهِي هُسَكِنْجِ أَلْبَتَّا وَإِنْتِهَائِ خَوْفْنَاكْ أَرْ تَبَاحْكُنْ حَمْلَا جو پوری انسانی آبادی کو برباد کر دے گا اس وقت بالکل قیامت کے مستقل وہی ہوگا جس کا ذکر بار بار آ چکا ہے. En revanche, ce qui est mentionné dans les hadiths, comme on a dit tout à l'heure, vers la fin des temps, c'est-à-dire après l'arrivée de Dajjal également, il y aura donc cette invasion, on va dire, des Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. حاصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کی بنا پر قطعی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ سد یعجود معجود ٹوٹ چکی ہے. On ne peut pas dire de manière sûre et certaine, à travers toujours les preuves du Coran et des hadiths, que ce mur, il est brisé. On ne peut pas dire que ça a été brisé. Or, rasta kul gayahe. Et on ne peut pas dire non plus que donc il y a cette ouverture, c'est-à-dire ils peuvent déjà aller dedans. Or, na kaha ja saktahe ki azurui Quran wa sunnat us qiyamat tak qaim rahna zarurihe. Et comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas non plus nécessaire que ce mur va rester jusqu'au jour du qiyamat. Ihtimal donohihe. C'est-à-dire, il y a les deux possibilités. Il y a les deux possibilités. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bi haqiqati al-hal. Allah ta'ala lui-même, il sait mieux, on va dire, la réalité de ces choses-là. Donc on a parlé donc de la sourate Al-Kahf brièvement, l'histoire de Al-Khadir avec Moussa alayhi salatu wassalam. Là aussi il y a eu quelques incidents, trois plus précisément. On va pas venir là-dessus. Il y a eu l'histoire donc des jeunes qui se sont réfugiés dans la caverne pour se protéger, pour protéger leur foi. Et il y a l'histoire de Dhul-Qarnayn avec les Gog et Magog qui font partie donc des signes de Qiyamah. Maintenant, une autre sourate qui commence également dans ce 16e sipara, c'est la sourate Maryam, Marie, la mère de Hadith Isa alayhi salat wa salam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala explique comment, on va dire, Allah ta'ala, sans l'intermédiaire d'un père, a fait que Hadith Maryam radiallahu anha a reçu, donc a donc été enceinte. Et Allah tabaraka wa ta'ala donc décrit bien cette scène, mais nous, comme on a dit, inshallah, on essaiera de suivre un peu notre plan brièvement de fiqh, tazkiyah et péché, etc. On va reprendre quelques masa'il, quelques règlements par rapport à cela. Le premier règlement qu'on peut retirer de cette histoire, c'est qu'à un moment, Maryam radiyallahu ta'ala anha, elle a dit « Inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya » Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, Allah ta'ala, et je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Et ça, c'était une forme de ibadat qui était présente dans les shariats précédentes. C'est-à-dire, il faisait le jeûne de la parole. Toute la journée, il ne parlait pas. Aujourd'hui, pour nous, cela n'existe plus. Ce n'est plus mashrour dans notre shariat à cause d'un hadith sharif rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, qui dit en ce sens « La yutma ba'dal hulm » c'est-à-dire que lorsque quelqu'un il a atteint l'âge de la puberté, alors il n'est plus considéré comme orphelin. Ça, c'est une partie du hadith sharif. Et l'autre partie du hadith sharif qui dit « Wala sumata yawmin ilal layl » on ne peut pas rester silencieux, en tout cas comme un acte d'adoration, en pensant qu'on est en train de jeûner, en train de faire une bonne action jusqu'à la nuit. Donc ça, c'est une première des choses. Deuxième chose qu'on peut voir également à travers les ayats de cette sourate Maryam, c'est quoi? C'est qu'à un moment, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا. C'est-à-dire, Allah ta'ala, il parle ici de Hazrat Ismail alayhi salatu wassalam. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Il commandait donc à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. À travers ce verset du Coran Sharif, Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayh, il nous dit que en dépit du fait que les Anbiya, alayhi salatu wa salam, ils ont une responsabilité générale, c'est-à-dire envers la communauté, envers la umma. Ici, Allah tabarak wa ta'ala, il mentionne plus précisément qu'il commandait à sa famille. Certes, il doit commander à toute la umma, mais ici, Allah tabarak wa ta'ala a mentionné plus précisément à sa famille. Tout cela pour dire quoi? Que d'abord, en premier lieu, islah kakam apne ahlu ayal, c'est shuru en kare. C'est-à-dire, on doit commencer à faire ce travail d'invitation envers notre propre famille. Dans un autre verset du Coran Sharif, Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhal ladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Ô les croyants, sauvez-vous et votre famille du feu de l'enfer. Après, bien sûr, cette responsabilité, elle s'étend et elle s'élargit de plus en plus envers toute la ummah du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un autre verset qu'on peut mentionner également, c'est quoi? C'est qu'Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit que après avoir mentionné différents anbiya alayhi salatu wa salam, Hazrat Moussa, Ismaïl, Idris alayhi salatu wa salam, il nous dit: fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. C'est-à-dire que après ces gens-là, il y a eu d'autres personnes, d'autres générations, puis leur succédèrent des générations qui délaissaient la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition. Et là, Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayh, il a expliqué un peu qu'est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala veut dire par délaisser la prière, adha'u salat. Et il nous dit que les mufassirines, la majorité des mufassirines alayhim wa rahma, Hazrat Abdullah bin Mas'ud, Imam Nakha'i, Imam Qasim, Imam Mujahid, Imam Ibrahim, Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullahu ta'ala, ils nous disent que ça veut dire nazdik namaz ko uske waqt se muakhar karke parna. Si par exemple l'heure de la salat, par exemple l'heure de la salat c'est jusqu'à le fajr, c'est jusqu'au lever du soleil, alors dépasser cette heure là, ça veut dire délaisser la prière. Et également certains ils sont d'avis que quoi, lorsqu'on va faire la prière à adab wa sharait, mais c'est kisi me kotahi kamne jisme waqt bidakhil hai ida'at namaz me shamil. Lorsqu'on va faire la prière dans nos gestes et dans les choses, les actions qu'on doit faire, les mustahabbat, les fara'is, wajibat, bien évidemment, on va avoir des manquements par rapport à ça. Et plus précisément, il nous rapporte un récit de Hadith Huzaifa radiallahu ta'ala anhu, que notre professeur, Hadith Sheikh al-Hadith, Mouna Fazl Rahman, damat barakatuhum, met beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup d'emphase sur ce phénomène-là. Il a même écrit des livres par rapport à cela. C'est quoi? C'est lorsque nous sommes, lorsqu'on appelle le qawma, lorsqu'on revient du recours, et lorsqu'on est dans le jalsa, c'est-à-dire entre les deux sajda. Dans ces deux moments-là, de faire très attention à faire la salat avec cette qualité de itminan. C'est-à-dire de ne pas, à peine qu'on ait fait le recours, on se met debout et immédiatement, on va dans le sajda. Et Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala anhu, il dit qu'une fois, il a vu quelqu'un en train de faire la salat. C'est-à-dire qu'il ne respectait pas donc ces règles, on va dire, de itminan, de ta'dil et arkan, que chaque membre doit rester immobile au moins pendant la durée de un subhanallah. Donc il ne respectait pas ça. Et Huzaifa radiallahu anhu lui a demandé: depuis quand est-ce que tu pries? Et il a dit: depuis 40 ans. Huzaifa radiallahu anhu lui a dit: tumne ek bi namaz nahi pari. En réalité, tu n'as même pas fait une salah dans toute ta vie. Or, agar tum aussi tarah ki namaz parte hue margae, to yad rako ke fitrate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki khilaf maroke. Si par exemple tu vas continuer à prier comme ça, alors sache que tu t'es détourné, on va dire, de la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il est extrêmement important. Je pense qu'on avait également distribué des petites feuilles avec les doas qu'il faut lire dessus. Quand on va lire ces doas lorsque nous sommes dans la position du qawma, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fiya, ça c'est le doa qui est un peu plus long, voilà, Allahumma Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, etc. Lorsqu'on va lire ces doas, automatiquement inshallah nous allons rester immobiles. Et lorsque nous serons entre les deux sajdas également, Allahumma ghfirli, ça c'est le plus court on va dire, ou bien même Rabbi ghfirli, ou alors on peut rajouter Allahumma ghfirni, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni, wajburni, wasturni, on peut rajouter ça également. Alors inshallah automatiquement on va respecter ça, et ça c'est quelque chose qui est important. De la même manière, dans un autre hadith sharif rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, Abu Mas'ud Ansari radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens: والشخص كي نماز نهيه تي جو نماز مي إقامتنا كري مراد يهي كي جو ركوع السجدة مي الركوع سي كري هو كر يدو سجدون كي درميان سيدا كرا هنا يا سيدا بيتنا كي اهتمام نا كري اسكي نماز نهيه. Il dit en ce sens que la personne qui justement, lorsqu'il va se relever du recours et lorsqu'il sera entre les deux sajda, il ne prendra pas attention à ces deux moments-là. Alors les paroles, on va dire littéralement, après il y a l'explication, littéralement, il dit que son namaz n'est même pas accepté. Donc ce sont des choses qui sont importantes et qu'Allah tabarak wa ta'ala, inshallah, fasse qu'on essaye de faire très attention. Et comme on a dit, alhamdulillah, en lisant les doigts, automatiquement, inshallah, nous allons pratiquer là-dessus et nous allons donc, inshallah, éviter de délaisser, selon ce tafsir, selon ce commentaire, notre salat. Un autre élément qu'on peut mentionner, c'est quoi? C'est par rapport à une de nos croyances, celle du pont Sirat. Vous savez que lors du jour du Qiyamah, après, il faudra traverser ce fameux pont, on va dire. Et dans le 16e sibara, Allah tabarak wa ta'ala, à un moment, il parle de ce ayat. Et il nous dit, وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour Allah tabarak wa ta'ala, d'une sentence irrévocable. Alors, passer par l'enfer, c'est un... Qu'est-ce qu'ils expliquent par rapport à ça? Ils nous disent que on devra passer par l'enfer, et comme le mot en lui-même il dit, ça veut dire passer. Donc lorsqu'on va passer, Allah tabarak wa ta'ala, il va faire que, comme pour Ibrahim alayhi salat wa salam, le feu est devenu un endroit bardan wa salama, c'est-à-dire de fraîcheur et de paix. Alors également, lorsque, inshallah, les musulmans ils vont passer, ils ne ressentiront pas cette chaleur du feu de l'enfer. Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, il dit que Hazrat Abu Sumayya, radiyallahu ta'ala anhu, raconte que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que aucun être humain, qu'il soit pieux ou pas, il n'y a aucun être humain qui n'ira pas en enfer. Ça veut dire en premier lieu, si vous voulez. Comme ce ayat, il explique. Et puis là, il a donné cette explication que pour les musulmans, les mu'minines et les muttaqines, le feu de l'enfer, Allah tabarak wa ta'ala, fera qu'il deviendra donc un endroit de paix et un endroit de fraîcheur par rapport à cela. Ensuite, on pourrait terminer, inshallah, par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'Allah tabarak wa ta'ala évoque grandement et longuement dans la sourate Taha l'histoire, le récit de Moussa alayhi salat wa salam, lorsqu'il a dû faire face à Pharaon, lorsqu'il a dû faire face aux sorciers, et lorsqu'il a dû être confronté à ces différentes épreuves. Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il dit que lorsque Moussa alayhi salat wa salam, il est venu vers Allah tabarak wa ta'ala, il a entendu la parole d'Allah. Allah ta'ala lui dit en ce sens, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Allah ta'ala l'a parlé, et avant même de parler directement à Moussa alayhi salatu wassalam, Allah lui a demandé d'écouter très attentivement. Fastami' lima yuha. À ce propos, Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi nous dit que même lorsque nous écoutons le Coran Sharif, alors il faut que nous soyons concentrés par rapport à cela. Il faut qu'on essaye de garder notre esprit également autant que possible sur la traduction et le sens de ces versets. Donc comme on a dit, l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam est grandement développé dans cette sourate Taha. Ensuite, vers la fin, Allah tabarak wa ta'ala, il évoque le récit de Hazrat Adam alayhi salat wa salam et Hazrat Hawa radiallahu anha, son épouse. Et à un moment, Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il reprend de Allama Qurtubi rahimahullahu ta'ala, qui mentionne et qui évoque les devoirs et les responsabilités du mari envers la femme à travers un verset, c'est-à-dire si tu ne vas pas faire ça, fatashqa wa innaka alla. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Allah Ta'ala dit en ce sens à Adam alayhi salatu wassalam, attention à ne pas faire cette erreur, parce que si tu vas quitter le paradis, le Jannah, alors tu vas être en difficulté. Et même si à ce moment ils étaient deux, à partir de cela, ça c'est les plus grands savants, ils ont retiré de cela, ils ont dit que le mari, il se doit de donner ce qu'on appelle le nafaqa à l'épouse, c'est-à-dire de subvenir aux besoins de l'épouse en termes de nourriture, en termes de boissons, en termes de logement et en termes de vêtements. Tout ce que le mari il fait au-delà de cela, alors ça c'est ce qu'on appelle tabarru' ihsan, c'est-à-dire des actions qui seront extrêmement récompensées par Allah tabarak wa ta'ala. Donc voilà un peu en gros. Un dernier élément dans cette sourate là qu'Allah tabarak wa ta'ala il mentionne, c'est quoi? C'est qu'à un moment il nous dit wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan. Ordonne à ta famille, aux gens de ta famille, de faire la salat et de rester ferme sur cette salat. Nous ne te demandons pas le risque, c'est-à-dire la subsistance. Nahnu narzuquk, c'est nous qui allons te nourrir. Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayh, il nous dit que c'est pour ça qu'il ne faut pas donner préférence au mondain sur la religion. Et pour prouver cela, il rapporte un hadith sharif rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu dans Tirmidhi Sharif et Ibn Majah, qui dit en ce sens qu'Allah tabarak wa ta'ala nous demande, il nous dit: ô être humain, ô fils d'Adam, tafarrag li'ibadati, épargne du temps pour moi, pour mon adoration. Amla sadraka rinan, je remplirai ton cœur de richesse. Wa asuddu faqrak, et je fermerai la porte à ta pauvreté. Wa illam taf'al mala'tu sadraka shughlan wa lam asudda faqrak, et si tu ne vas pas faire ça, alors ton cœur sera rempli d'occupation et la porte de la pauvreté ne sera pas fermée pour toi. De la même manière, dans un autre hadith sharif d'Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, il est dit en ce sens: man ja'ala humumahu hamman wahidan hammal ma'ad kafahu Allahu hamma dunyahu. Celui qui va regrouper tous ses soucis et tout son fikr, on va dire, en un seul souci, celui de l'au-delà, celui de l'akhirat, de la vie après la mort, alors Allah tabarak wa ta'ala lui suffira pour toutes ses affaires mondaines. Wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwal ad-dunya lam yubali Allah fi ayyi awdiyatin halaka, et celui qui va se disperser son attention dans différentes occupations et tracasseries fikr, alors Allah tabarak wa ta'ala dit en ce sens que je ne me soucie pas dans quelle vallée cette personne elle va être détruite. Donc Allah tabarak wa ta'ala fasse que inshallah, à travers ces versets du Coran Sharif, on arrive également toujours à essayer de garder notre attention sur Allah tabarak wa ta'ala, car nos actions également, il faut que cela nous amène et nous approche d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah nous donne la compréhension inshallah de ces quelques paroles. Alhamdulillah rabbil alamin.